After Média, Philippe Bondel.
Et si regarder une série nous permettait de suivre une leçon d'histoire? En cette période de confinement, encore plus que d'habitude, nous pouvons apprendre tout en nous divertissant. Un ouvrage vient de sortir, ouvrage qui décrypte les trois séries anglaises préférées des Français, Peaky Blinders, The Crown et Downton Abbey, des gangsters, une famille royale, des maîtres et des valets, des personnages qui n'ont jamais aussi bien raconté l'histoire des Britanniques au XXe siècle. L'Angleterre en série, c'est également le titre du livre de Yoannis de Roade, paru chez First Edition. Bonjour Yoannis de Roade.
Bonjour Philippe Bondel.
Un mot sur vous pour commencer. Votre travail, ce n'est pas de regarder des séries, vous n'êtes pas critique, vous êtes historien et même agrégé d'histoire. En quelle classe enseignez-vous ?
Au lycée, je suis prof d'histoire géo.
D'accord. Alors, donc là, en ce moment, vous êtes en confinement, j'imagine.
Eh oui, bien sûr.
Vous faites cours à distance avec vos élèves ?
Oui, c'est des choses qui ne sont pas très faciles à mettre en place pour l'instant. Là, on est au début, on tâtonne, on essaye surtout de ne pas perdre le contact avec les élèves.
Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux séries britanniques ?
Oh, mais les séries britanniques, on les apprécie, on les connaît bien en France. Elles sont souvent très bien jouées. Elles ont souvent ce charme des costumes, des décors.
Et mais vous-même, pourquoi vous êtes intéressé, focalisé sur ce sujet?
Parce que justement, je trouvais que les Britanniques couvrent beaucoup de périodes qu'on connaît nous aussi en France, notamment au XXe siècle, les guerres mondiales, toutes les transformations qu'ont connues notre histoire contemporaine. Et ils se sont mis, avant les Français, à les décrire vraiment de manière très, très percutante, très intéressante.
Vous avez choisi de parler de trois séries, Peaky Blinders, The Crown et Downton Abbey, en particulier les séries les plus connues des Français d'ailleurs. Pourquoi ces trois-là? Parce que c'était les plus connues?
Oui, et puis parce qu'elles se complètent bien, elles couvrent les mêmes périodes mais pas tout à fait, elles sont un peu décalées chronologiquement, et puis elles n'abordent pas tout ça avec le même ton, donc il y a vraiment une diversité, une variété d'approches qui est stimulante.
Voilà, pour qui n'en connaît qu'une ou deux, racontez-nous de quoi ça parle. Tiens, on va commencer par la série The Crown, on va entendre le son, l'ambiance sonore, parce qu'évidemment c'est magnifique, musicalement, les décors, les costumes, c'est somptueux. Le succès de cette série vient de la fascination qu'on a pour la famille royale ou pas seulement ?
Bon, pas seulement. Bon, c'est vrai que c'est surtout un biopic de Crown d'Elisabeth II, hein, de la reine et de son très très long règne. Mmh. Et on découvre aussi les membres de la famille royale et puis le mode de vie très si particulier qu'ils ont et puis comment leur vie entre en résonance avec les événements de leur pays, avec l'histoire de leur pays. Comment tout ça, ça se croise, ça s'entremêle. Ils nous apparaissent à la fois souvent déconnectés et puis en même temps, ils sont bien là dans ce pays en même temps que le reste de la population et tout ça fait écho.
Je le rappelle, vous êtes professeur d'histoire. Dans quelle mesure ce qui est dit, ce qui est raconté dans la série est authentique? Dans quelle mesure vos élèves, les élèves, peuvent s'en servir pour le bac, par exemple?
Avec prudence, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui sont très fidèles dans la reconstitution, les décors, les costumes, les lieux. Il y a parfois même un soin maniaque. Après, par exemple, il y a beaucoup de crises dans The Crown, des crises politiques, des crises sociales. Et là, ils prennent des libertés dans les discours des uns et des autres. On voit beaucoup d'hommes politiques dans The Crown, beaucoup de premiers ministres. On voit Churchill, par exemple. Et là, les scénaristes n'ont pas hésité à lui mettre dans la bouche des mots qu'il n'avait pas prononcés, ou pas à ce moment-là, ou pas de cette manière-là. Donc, il y a beaucoup de liberté. Moi, c'est ce que je trouve amusant. Il ne faut pas se dire que c'est un cours d'histoire. Il faut se dire que c'est une autre manière d'aborder l'histoire, avec effectivement des libertés qui sont prises, mais avec un regard qui peut donner envie d'en savoir plus.
Est-ce qu'on sait si Elisabeth II, la reine, a vu la série ?
Non, c'est pas là-dessus. Le palais Buckingham Palace est vraiment bouche cousue. Alors on suppose que dans son entourage, que dans tout le staff de la famille royale, bien sûr que oui. Elle personnellement et sa famille proche, il n'y a pas de commentaire là-dessus. On peut imaginer ce qu'on veut. On peut supposer qu'ils n'y sont pas complètement indifférents. Mais il y a vraiment aucun mot à ce sujet.
Oui, vous devez connaître la phrase du cardinal de Retz, célèbre phrase, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Une autre série, mélange la réalité et la fiction, c'est Peaky Blinders. On écoute le générique chanté par Nick Cave and the Bad Seeds.
On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
On reconnaît bien la voix de l'Australien Nick Cave, cette voix caverneuse. Alors je vais vous dire la vérité, je ne connais pas cette série. Parce que c'est tellement chronophage les séries, si on commence à se lancer dans une série, on ne s'arrête plus et du coup j'aurai plus le temps de lire les livres ou de voir les films. Qu'est-ce que ça raconte d'abord Peaky Blinders ?
Donc on est à Birmingham, on est en 1920, c'est le retour de la Première Guerre mondiale, dans un quartier très populaire, et puis on a cette famille d'origine en partie gitane. Ouais. Ils ont servi pendant la Première Guerre mondiale, donc il y a tout ce traumatisme, et puis ils vont reprendre leurs affaires. C'est un gang criminel aussi, donc on appelle ces fameux Peaky Blinders. Et puis voilà, on va les suivre dans leurs aventures. Ils ont des ennemis, ils ont des rivaux, ils ont des problèmes familiaux, évidemment, et puis en même temps, ils essayent de connaître une vraie ascension sociale. Et donc, c'est toute une histoire voilà, sociale, politique aussi, qui est racontée, mais on est dans les rues de Birmingham, donc vraiment au milieu du peuple.
Qu'est-ce qui est intéressant dans cette série ?
Bah, c'est l'approche très très audacieuse, très contemporaine. Hein. Vous venez de passer le générique, voilà. C'est je crois que le pitch, c'est ça. On imagine qu'on est dans les années 20, mais qu'on entend Nick Cave.
D'accord.
C'est ça le résumé.
Avec du rock'n'roll, mais quand même, quand ils vont dans une boîte de nuit, on entend de la musique des années 20. Ou est-ce qu'ils jouent totalement sur le décalage temporel, comme le film de Sofia Coppola où ils étaient à Versailles avec la reine Marie-Antoinette, mais en basket?
Bah, quasiment. Alors, ça va pas aussi loin visuellement, mais c'est vrai que toute l'ambiance sonore et toute l'esthétique visuelle aussi, elle est très très contemporaine. Ça aide aussi à accrocher. Je crois que c'est une voie pour les fictions historiques, pour aussi capter un autre public.
D'accord, mais il y a pas d'anachronisme. Ils ont pas des portables en 1920.
Non, il n'y a pas de portable en 1920. Après, si on est attentif, effectivement, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas fidèles tout à fait à l'époque. Et d'autres, au contraire, qui le sont énormément.
Par exemple,
il y a des choix qui ont été faits. Bah, dans les costumes, par exemple, qui ont l'air d'époque, en réalité, il y a des choses qui sont plus contemporaines. C'est d'ailleurs pour ça que le look Peaky Blinders a eu beaucoup de succès. Et il y a des enseignes de mode qui l'ont repris à leur compte, des magazines qui ont donné des conseils pour qu'on puisse le copier soi-même.
Qu'est-ce que c'est le look ? Pardonnez-moi, d'un mot, qu'est-ce que c'est le look Peaky Blinders ?
Ah bah alors c'est le grand par-dessus en tweed, c'est la chemise avec ce col peignil à rond un peu particulier, la casquette un peu du grand-père, et puis cette coupe de cheveux très spéciale, complètement rasée sur les côtés avec simplement les cheveux au-dessus. C'est quasiment un uniforme, une panoplie. Hein, et on sait que les vrais Peaky Blinders s'habillaient pas tout à fait comme ça, n'étaient pas coiffés tout à fait comme ça.
Ça me fait sourire parce que je trouvais ça un peu bizarre cette coupe et je me demandais d'où ça venait, donc merci de m'avoir éclairé. Vous voulez ajouter quelque chose et je vous ai interrompu.
Oui, simplement que par ailleurs, sur des événements historiques, sur des événements sociaux, parfois la série est très précise. Quand on nous dit qu'il y a eu une vague de grève à Birmingham à ce moment-là, bah effectivement, quand on va vérifier dans les livres d'histoire, c'est vrai, la ville a été secouée par des manifs, des révoltes, exactement à cette période. Donc d'un côté, ils collent vraiment au passé, et puis de l'autre, quand ils en font le choix, les scénaristes, ils s'en écartent.
Voilà, on continue de parler des séries en compagnie de vous, Yanis de Rode, auteur de L'Angleterre en série. À tout de suite, on marque une pause.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes avec Yanis de Rode, vous êtes professeur agrégé d'histoire et en même temps vous venez de publier un livre sur les séries britanniques que nous aimons beaucoup, ça s'appelle L'Angleterre en série. Nous aimons beaucoup, c'est les Français, c'est les trois séries préférées des Français, livre paru chez First Edition. Il y a Peaky Blinders, The Crown, Downton Abbey. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ces trois séries ?
Ce qu'elles ont en commun, c'est finalement de nous raconter notre passé proche. Hein, le XXe siècle, il est pas si lointain encore. Et donc de nous rappeler, hein, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes, quand même un certain nombre d'événements qu'on a pu vivre, qu'on a pu apprendre à l'école.
Oh, quand même, en toile de fond, il y a quand même la guerre de 14. Ça parle à peu de gens quand même, la guerre de 14. Ce qui est en toile de fond dans ces trois séries, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est qu'il y a justement ce sous-texte de la guerre qui est là ou qui a été là.
Oui, mais en même temps, la guerre de 14, je trouve qu'elle est restée très présente dans les mémoires. On continue de la commémorer, on a régulièrement des magazines, des documentaires, des films qui sortent. Tout récemment, le Sam Mendes a remis encore ce conflit dans l'actualité. Donc finalement, c'est un passé voilà, qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, c'est vrai, mais sur lequel on a encore quand même, qui nous est familier, hein, plus que le Moyen-Âge, plus que l'Antiquité, c'est sûr.
Alors, je parlais de la guerre, dans Peaky Blinders et Downton Abbey, les personnages se retrouvent souvent enrôlés pendant la Première Guerre mondiale, on va entendre l'ambiance sonore de Downton Abbey. Dites-nous, que raconte la série ?
Alors, Downton Abbey, c'est une série met en scène des maîtres et des valets dans une grande demeure aristocratique de l'Angleterre et qui va effectivement être très troublée par la Première Guerre mondiale. Il y a vraiment un avant et un après. Hein. La première saison se passe avant la guerre et tout le reste se passe après. Et on sent que plus rien ne sera comme avant. Hein. La Première Guerre mondiale, en Angleterre comme en France, elle a tout changé.
Downton Abbey, c'est une série avec des dominants et des dominés. Est-ce que c'est une allégorie de certains qui voient renaître une sorte de lutte des classes ou alors le Nord qui dominerait le Sud? Est-ce que vous voyez ça comme ça ou pas du tout? Là, on va trop loin en disant ça.
Non, on va pas trop loin, mais les Anglais ont toujours fait des fictions très sociales et des fictions dans lesquelles il y avait des grands contrastes de classe. Hein. On s'en rend pas trop compte en France parce qu'on est un peu frileux à ce sujet-là. Mm-hmm. Mais en Angleterre, ils ont jamais reculé devant la reconnaissance, l'acceptation de ce type de contraste. Et c'est vrai que dans Downton Abbey, c'est clairement ça, le fil conducteur. Hein. C'est ce qui fait avancer l'histoire.
Alors, dans l'histoire, on voit des grandes dates dans ces séries. On voit 1912 Titanic, le krach boursier de 29, la nationalisation du canal de Suez en 56. C'est quelque chose qui frappe parce que dans les séries françaises, il n'y a pas cet anglicisme d'événements historiques. Il y a très peu de séries qui font référence, par exemple, à la guerre d'Algérie, ou alors on est totalement centré là-dessus. Et par exemple, dans Peaky Blinders ou Downton Abbey, il y a également la question irlandaise qui revient.
Oui, 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 ça c'est quand même quelque chose qui a traumatisé aussi les Anglais, les Irlandais surtout, mais les Anglais aussi pendant des décennies. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant à suivre d'une série à l'autre, c'est-à-dire qu'avec Peaky Blinders, on voit le conflit irlandais comme il se présente dans les années 20, et puis avec The Crown, on va la voir là, dans la prochaine saison dans les années 70. Et on mesure finalement la longueur hein, de cette question irlandaise, la durée.
Et on voit même dans The Crown le mouvement d'émancipation des femmes.
Oui, oui, bien sûr. Alors les Anglais ont été assez pionniers en la matière. Le droit de vote a été accordé en Angleterre bien avant qu'il le soit en France. Et les suffragettes, hein, puisque c'est leur nom, c'est un mouvement qui est d'origine effectivement des États-Unis, mais aussi beaucoup de l'Angleterre. Et ça, c'est bien bien représenté dans ces séries-là.
C'était en quelle année en Angleterre ?
C'est après la Première Guerre mondiale. D'accord. On est vraiment dans cette. Les femmes ont leur rôle a changé pendant la guerre et forcément il y a eu des conséquences politiques.
Alors qu'en France, de mémoire, c'était après la Seconde Guerre mondiale et non pas ça remonte pas au Front populaire comme on le croit parfois à tort.
Et non, 1944.
Vous racontez que la série The Crown n'a rien inventé, que faire des séries sur les rois en Angleterre, ça remonte à l'époque de Shakespeare.
Oui, oui, la fiction historique, c'est quelque chose que les Anglais ont toujours adoré. C'est vrai qu'au théâtre, déjà, ils aimaient mettre en scène leurs anciens souverains. Par comparaison, en France, c'est quelque chose qu'on n'a jamais osé faire. Hein. Le roi, il est toujours un petit peu absent. On en parle, on l'invoque, mais ce n'est pas lui le sujet de la fiction. Ils n'ont pas ce type de scrupule en Angleterre.
Il y a une époque où on ne voyait que des séries américaines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que c'est parce que les séries anglaises sont devenues plus qualitatives qu'avant, de meilleure qualité, ou simplement parce qu'il y en a davantage et du coup, on les voit de fait par l'effet de nombre?
Oui, elles arrivent à mieux s'exporter aussi. Ils ont comme les Américains, ils ont la langue, hein, évidemment, c'est quand même un grand atout. Ils sont portés par des acteurs qui sont souvent très connus parce qu'on les a vus aussi dans des séries américaines. Mm-hmm. Il y a plein d'acteurs anglais dans Game of Thrones, par exemple, qu'on peut avoir plaisir à retrouver dans d'autres séries ensuite, très, très british. C'est vrai que pour eux, c'est quand même à l'exportation, c'est un atout extraordinaire.
En quoi ces trois séries résonnent dans l'actualité? C'est pas seulement de l'histoire, ou alors c'est de l'histoire contemporaine, de l'histoire immédiate. Vous avez écrit ça au moment du débat sur le Brexit.
Oui, c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est que c'était un moment où on se repenchait beaucoup sur la situation de ce pays toujours un petit peu à part, hein, le Royaume-Uni, si loin, si proche. Ouais. Et au moment où ils étaient en train de débattre et de se déchirer pour quitter l'Union européenne, on se rendait compte à quel point leur histoire, elle est proche de la nôtre, elle a ses particularités bien sûr, mais ils nous ressemblent quand même beaucoup. Ils ont vécu la guerre comme nous, ils ont vécu l'industrialisation comme nous, et ainsi de suite. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui a joué aussi dans l'élaboration de ces séries. Hein. Les Anglais se sont demandé qui nous sommes, d'où on vient, qu'est-ce que c'est notre passé. Enfin, des questions qu'ils se sont posées beaucoup ces dernières années.
Ils nous ressemblent beaucoup. En même temps, ils font des choses qu'on n'ose pas encore faire en France, et de parler de l'actualité immédiate. Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer une série où est-ce qu'il y a des évocations de, je sais pas moi, l'affaire de la relation entre le prince Andrew et le millionnaire pédophile Jeffrey Epstein?
Alors, ça va venir. Je pense qu'effectivement, les choses qui sont encore très, très, très actuelles, mais on pourrait imaginer, bon, c'est pas ce qui est prévu pour The Crown, qu'elle se prolonge indéfiniment, mais si elle se prolongeait indéfiniment, je suis sûr qu'à un moment, on en arriverait à l'évocation des petits-fils de la reine et des derniers scandales ou soubresauts. Les Anglais en parleront d'une manière ou d'une autre. Hein, ils ont du courage dans leur fiction historique et aussi dans leur fiction politique. Donc, d'une façon ou d'une autre, on pourra le voir à l'écran un de ces jours.
Un mot de télévision, comment travaille-t-il là-bas en Angleterre, dans les îles Britanniques? britanniques. Est-ce que parce que leur marché, et puis ils parlent la langue anglaise, est-ce parce que le marché est quasiment mondial, ils écrivent pour le monde entier, ou est-ce qu'ils ciblent d'abord pour les chaînes de télévision et les réseaux anglais britanniques?
Bon, un peu les deux évidemment, ça dépend aussi des productions, hein. Comme tout le monde, ils passent de plus en plus maintenant par des plateformes, donc quand ils essayent de se faire distribuer par Netflix ou par Amazon, c'est tout de suite un marché mondial. En même temps, le raisonnement gagnant actuellement, hein, c'est d'écrire local pour vendre global. Donc c'est parce que finalement, ce que les audiences du monde entier aiment, c'est que toutes les séries ne se ressemblent pas, on aime avoir sa série mexicaine, sa série coréenne, sa série américaine et ainsi de suite. Donc on a plaisir où qu'on soit à voir une série en se disant « Ah, celle-là, elle est vraiment anglaise. »
Voilà, et exactement. Et La Casa de Papel, par exemple, qui a un succès planétaire, avait démarré sur une petite chaîne espagnole. Il ne pensait absolument pas être distribué et célébré dans le monde entier. Peaky Blinders, The Crown, Downton Abbey, s'il faut en choisir une, mais s'il faut démarrer, parce que les gens, maintenant, ont quatre forces majeures, ont du temps chez eux, laquelle de ces trois séries est votre préférée? Ou je vais poser la question plutôt différemment, par laquelle faut-il commencer?
Alors, ça dépend des goûts, mais Peaky Blinders va être quand même ma préférence. Elle est dramatique, elle est rythmée, on est plongé dans quelque chose qui a peut-être pas... ce qu'on reproche des fois aux séries historiques, d'être un petit peu lente, un petit peu poussiéreuse. Là, on est vraiment aux antipodes de ça. Je pense que ça peut vous réconcilier avec l'histoire et la fiction historique.
Yannis Deroide, vous êtes fan de séries britanniques ou vous êtes fan de séries tout court?
Tout court, même si on a un petit peu plus de temps en ce moment pour en regarder, mais la production est devenue tellement pléthorique que plus aucun sériephile n'arrive à suivre, en fait. Hein.
Je vous demandais si vous aviez une autre série à nous conseiller, combien même ne serait-elle pas britannique?
Alors justement, on parlait de série coréenne tout à l'heure. Ouais. C'est une série historique, c'est Kingdom, elle passe sur Netflix, donc beaucoup de gens y ont accès. C'est assez fantastique, c'est une bonne entrée dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'il est aussi question de zombies et de morts vivants.
Wow.
Mais c'est une bonne entrée dans la fiction historique coréenne. Les Coréens sont super forts pour faire des séries historiques super, et celle-là je la conseille, Kingdom.
Merci beaucoup Yannis Deroide, vous avez publié L'Angleterre en série chez First Edition. Juste une question, est-ce que votre livre est rangé dans les librairies au rayon histoire ou au rayon culture?
Alors, ça dépend. Parfois cinéma, effectivement, et puis parfois histoire. Et puis il est en e-book aussi, par les temps qui courent, c'est pas toujours évident d'avoir accès à des livres en version papier.
Vous avez tout à fait raison de le dire.
Donc on peut procurer en livre numérique.
En livre numérique. Combien ça coûte en livre numérique?
Oh, c'est moins de 15 euros.
D'accord. Merci beaucoup Yannis Deroide d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, par téléphone évidemment, comme tous nos invités. Je rappelle votre livre, L'Angleterre en série, c'est paru chez First Edition.